Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans cette émission spéciale autour du livre de ce mois de juin. Trois invités ce mois-ci lors de rencontres dédicaces à l'espace culturel de Carpentras et un temps en deux parties avec Victor Fleury de son nom d'auteur Ville Vortex. Ce jeune auteur passionné qui nous propose régulièrement le moment de l'imaginaire et toutes les fois avec un nouvel auteur à découvrir dans chaque émission. Mais avant de nous faire découvrir un de ses auteurs favoris, il va nous parler d'un livre qu'il a écrit. Il n'était pas seul pour l'écrire, c'est 20 nouvelles, 20 auteurs, tous avec un sujet en commun, du plomb à la lumière, aux éditions Le Grimoire. Le titre de la nouvelle, donc de Ville Vortex, c'est « Sous l'œil de Thorne ». Nous écoutons sans plus tarder Ville Vortex et tout de suite après l'interview, vous pourrez entendre un extrait de la composition musicale de Colin Cerveau qui accompagne cette histoire de 20 minutes de voyage sous l'œil de Thorne. Alors Victor, tu es dans cette émission autour du livre, tu nous proposes le monde de l'imaginaire. Tu vas nous parler un petit peu de ton livre, d'un livre que tu as écrit avec d'autres personnes.
Alors moi j'écris depuis longtemps, par contre ça fait pas longtemps que j'envoie mes textes à des éditeurs. Donc j'ai publié déjà d'autres nouvelles et en fait là une de mes nouvelles a été sélectionnée pour un ouvrage un peu particulier. C'est une anthologie, donc un recueil de nouvelles, de 20 nouvelles différentes. Sauf que ces nouvelles ont quelque chose de particulier, elles sont toutes rattachées à un même thème, du plomb à la lumière. C'est une expression un peu mystérieuse que l'éditeur a envoyée dans un appel en demandant à tous ceux qui le voulaient de lui envoyer une nouvelle qui se rattache à cette expression étrange, du plomb à la lumière.
Donc il y a 20 nouvelles sur ce livre, hein ?
Tout à fait, il y a 20 nouvelles. Elles ont été sélectionnées par l'éditeur parmi les 160 environ nouvelles qu'on leur a envoyées. Et lorsqu'ils les ont sélectionnées, eh bien, ils ont ensuite fait composer une musique pour illustrer les nouvelles. Donc chacune des nouvelles, au début, donc sur la page où on présente le titre, l'auteur, vous avez également un flashcode que vous pouvez utiliser avec votre smartphone, ou alors pour ceux qui n'ont pas de smartphone, eh bien vous pouvez aller sur internet, hein, y a l'adresse internet sous le flashcode, et écouter quand même la musique qui a été composée pour la nouvelle. En fait, pour être exact, il y a 3 musiques qui ont été composées pour chaque nouvelle, et l'éditeur a ensuite choisi la musique qui correspondait le mieux à la nouvelle. Alors moi je trouve ça très intéressant parce qu'en plus j'ai lu les nouvelles des autres auteurs avec les musiques. Je trouve que ça rajoute une ambiance, ça plonge tout de suite dans l'atmosphère que l'auteur a voulu installer.
Les musiques ont été choisies par l'éditeur ?
Tout à fait, ça a été choisi par l'éditeur. Et on a également des illustrations, donc pour chaque nouvelle, pareil, 3 illustrateurs ont fait une illustration et l'éditeur a choisi l'illustration qui lui semblait le plus adaptée à la nouvelle.
Donc on n'a peut-être pas dit le nom de l'éditeur, c'est les éditions Le Grimoire.
Le livre est sorti en mars 2016. Donc vous pouvez le commander ou le trouver dans n'importe quelle bonne librairie. Oui. Effectivement, donc c'est Le Grimoire qui a fait paraître ce livre et qui est à l'origine de ce concept novateur, hein, qui est génial. Alors en plus, vous avez une dimension supplémentaire. Alors attention, tenez-vous bien. À la fin du livre, vous avez une étiquette à gratter. Alors vous ne gagnerez pas d'argent, mais vous gagnerez mieux que ça. Si vous grattez l'étiquette, vous avez un code. Et grâce à ce code, sur le site internet des éditions Le Grimoire, vous pouvez voter pour les 3 nouvelles que vous avez préférées. Alors à quoi ça sert ? Eh bien en 2017, les éditions Le Grimoire vont demander à l'auteur qui a reçu le plus de votes d'écrire un roman qui se passe dans le même univers avec la même ambiance que la nouvelle qu'il a écrite pour le recueil du plomb à la lumière. C'est une façon en fait de laisser le choix aux lecteurs, de leur demander voilà, on vous propose 20 aventures et on voudrait savoir dans quel univers vous voulez qu'on continue l'aventure, dans quel univers vous voulez qu'on lise une histoire beaucoup plus longue. Alors bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de voter pour moi, même si je vous y encourage. Non, je rigole. Si l'un de mes camarades auteurs gagne, je serais très content pour lui. Je pense que avant de voter, il faut bien lire toutes les nouvelles pour bien faire son choix. Oui. Si vous êtes intéressé par la mienne, c'est la deuxième du livre.
Qui s'intitule, Victor ?
Alors elle s'intitule « Sous l'œil de Thorne ». Alors c'est très mystérieux, sous l'œil de Thorne. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait c'est, je peux pas en dire trop sans dévoiler l'histoire. Donc je vais vous dire dans quelle ambiance elle se situe. C'est l'histoire d'une tribu superstitieuse qui vit dans un environnement hostile, qui a des croyances, comme toutes les tribus primitives, qui a des croyances, elle croit en un dieu qui est mauvais et qui les regarderait sans cesse. C'est pour ça que ça s'appelle Sous l'œil de Thorne. Est-ce que vraiment quelqu'un les surveille? Ça, vous le saurez en lisant l'histoire, qui se déroule du point de vue d'un jeune homme de la tribu qui va avoir un enfant et qui se demande quelle est la vérité.
Alors ton nom de plume, on l'a peut-être pas dit, tu vas nous le révéler?
Alors oui, j'écris sous le pseudonyme de Ville Vortex. Donc ce n'est pas mon vrai nom. Pourquoi? Parce que j'aime bien jouer avec les masques, parce que j'aime bien inventer des noms. Vous pouvez également retrouver d'autres nouvelles. J'ai édité Sedna la frontière, qui est une nouvelle de science-fiction, aux éditions Rivière Blanche, dans l'anthologie Dimension Système Solaire. En 2016 va également paraître aux éditions Luciférine un recueil sur le chat dans la littérature fantastique, dans lequel il va y avoir l'une de mes nouvelles. Qui s'intitule Haché menu comme chair à pâté. C'est une relecture fantastique du chat botté, moderne, un peu plus inquiétante que le conte original. Et enfin, vous pouvez également lire plusieurs nouvelles que je partage sur le site Short Edition. Voilà, je vous remercie.
Un extrait donc de la composition musicale de Colin Cerveau qui accompagne donc Sous l'œil de Thorne. Alors nous retrouverons Victor de son nom de plume Ville Vortex en fin d'émission pour le moment de l'imaginaire. Donc nous continuons maintenant cette émission avec une jeune femme pleine de vie, vit avec un grand V, Cécile Coppel. Elle va nous parler d'une saga en 5 volumes qu'elle a écrite. Donc après la première partie de cette interview, vous pourrez écouter donc une chanson de Zaz qui nous interprète La part d'ombre, un extrait donc de son album Recto Verso, qui est son deuxième album sorti en mai 2013. Et tout de suite après la chanson de Zaz, la suite de l'interview de Cécile Coppel. Je vous laisse la découvrir. Cécile Coppel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez écrit la saga Anna O'Neill aux éditions Sud-Arène. Donc c'est une épopée mi-science-fiction, mi-contemporaine. Une épopée qui se compose de 5 tomes. Vous pouvez un petit peu nous énumérer ces tomes-là?
Alors le premier tome s'appelle Oriane, le deuxième tome Serdif, le troisième Diménoé, le quatrième l'Invictus et le cinquième le Tilium. Ces cinq tomes sont déjà écrits et je les ai vendus en auto-édition pendant 3 ans. Et puis j'ai été contactée par Sudarène qui a donc publié le tome 1 et le tome 2 va sortir, le tome 2 Serdif va sortir en juin.
Est-ce que ce sont des noms de personnages à chaque fois ?
Alors Oriane est un personnage, après ce sont des noms de lieux, sauf Invictus qui est un nom particulier, mais là je ne veux rien spoilier d'histoire, donc c'est particulier. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit.
D'accord. Alors vous venez d'où, Cécile ?
Alors j'ai grandi dans le sud de la France au Pradé, et puis après j'ai maintenant depuis une vingtaine d'années, je vis à Marguerite à côté de Nîmes. Mon histoire d'ailleurs commence à Marguerite parce que j'ai un personnage qui arrive d'un présent parallèle et il ne sait pas comment il a réussi à débarquer dans mon monde à moi, c'est-à-dire au péage d'autoroute Nîmes-Est. Et la sortie Nîmes-Est, il arrive là et il tombe sur des gens comme vous et moi. Il ne sait pas pourquoi il est là et nous on ne sait pas ce qu'il fait là non plus et l'aventure commence à partir de là.
Est-ce que vous avez déjà écrit d'autres livres avant celui-ci ?
Alors, je n'avais jamais écrit d'autres livres. J'ai beaucoup écrit des morceaux, c'est-à-dire que je m'amusais à écrire des fins quand les fins des livres ne me plaisaient pas. Je me suis aussi amusée à écrire des suites sur des sagas. Quand on en était au tome 3, et ben j'écrivais le début du 4, comme j'aurais aimé que l'histoire... Et puis, chaque fois, c'était à la fois très enthousiasmant parce que j'y prenais un grand plaisir, mais en même temps très frustrant parce que très souvent ben ça partait pas dans ce sens-là, ou puis c'était pas mes personnages, c'était pas mon monde, c'était j'étais coincée par des choses qui dépendaient pas de moi. Donc j'ai décidé un jour de me mettre à écrire mon histoire et je n'en ai pas parlé autour de moi, je n'ai rien dit à personne, j'ai commencé et c'est vraiment comme sauter d'un plongeoir. Je ne me croyais absolument pas capable d'écrire une histoire entière. Je ne connaissais rien d'histoire. Je ne savais absolument pas où j'allais. Et j'ai commencé à écrire et ça m'a emporté une dizaine d'heures par jour pendant 2 ans. Enfin, c'était incroyable. Mais toute ma famille ne m'a plus vue, mes amis non plus. Je travaillais 7 heures par jour et j'écrivais au minimum 8 heures, voire plus. Et je n'ai fait que ça pendant 2 années et je suis arrivée au bout. J'avais 1400 pages et je me suis dit, maintenant, ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait des gens qui le lisent. Donc, j'ai lancé une souscription et j'ai dit à tous mes contacts, je leur ai dit, voilà, ça fait 2 ans que vous ne me voyez plus. Et j'ai écrit une histoire. Je l'ai divisée, j'étais obligée de la diviser. Et quand je l'ai divisée, je l'ai coupée en 3, ça allait pas. Je l'ai coupée en 4, ça allait pas. Et quand je l'ai coupée en 5, j'ai eu l'impression qu'elle avait été écrite pour être coupée en 5. Alors, je l'ai coupée en 5. Et maintenant, si vous voulez bien souscrire, vous me permettrez d'en faire des livres. Il me faut au moins, j'avais calculé avec un imprimeur, tout ça, il me fallait au moins 12 personnes, 12 à 15 personnes pour pouvoir, 12 à 15 personnes qui prenaient les 5 livres, donc ça faisait beaucoup de livres. Et j'ai eu 47 personnes qui m'ont répondu favorablement et qui m'ont envoyé les chèques. Et à partir de là, j'ai commencé à les vendre sous forme de livres. Tous ces lecteurs m'ont envoyé des fichiers de correction parce que c'était bourré de fautes d'orthographe, parce que j'avais beau corriger, il y en avait toujours. Et puis ça s'est amélioré au fil du temps, chaque édition, parce que du bouche à oreille ça a fonctionné, donc 20 autres lecteurs, puis 20 autres lecteurs, puis 20 encore, et comme ça j'ai vendu pendant 3 ans ma saga entière. Et puis dans le groupe, parmi mes lecteurs, il y a quelqu'un qui a lu mon livre, ça lui avait beaucoup plu, et qui en a parlé à un éditeur, et cet éditeur m'a demandé à lire le tome 1 et à accepter de m'éditer. Donc voilà, le tome 1 sorti par l'éditeur de Sudarène, qui est un éditeur basé à Hyères, dans le 83. Et le tome 2 va sortir en juin, mais tous les tomes sont écrits, donc ils sont prêts à sortir. Et j'ai travaillé avec un graphiste formidable qui m'a permis de réaliser des couvertures, les couvertures du livre qui sont vraiment très belle, et c'est à elle qu'on les doit, et je l'en remercie encore publiquement. Voilà.
Merci pour toutes ces informations. Oui,
je n'ai pas donné le nom du graphiste en question, c'est Geoffrey Isard, graphiste à Toulon.
Ah oui, je confirme, vraiment les couvertures sont extraordinaires, donc un mélange de photos et de dessins.
Ce sont des photos qu'il retravaille. Et donc la difficulté, c'est de trouver... Moi, je suis dans un monde... C'est pas toujours notre monde à nous, puisqu'on est à cheval sur 2 dimensions. Et quand on est dans le présent en parallèle, et ben c'est des choses différentes. Donc, en fait, il faut arriver à créer un esprit. Et comme cette Geoffrey n'avait pas lu mon livre, il fallait que je lui explique l'esprit dans lequel je voulais, l'esprit dans lequel je voulais que cette image soit, se trouve. Et on a, du coup, j'ai été obligée de beaucoup réfléchir et de formuler des choses par rapport à la représentation que j'en avais. Et du coup, c'est encore plus riche que ce que j'aurais pu faire moi-même si j'avais su manipuler des photos aussi bien qu'il le fait.
Oui, parce que c'est très important aussi la couverture. Hein, de suite, le lecteur, hein, il va être quand même déjà dans un premier temps attiré par la couverture. Donc, je pense que oui, et elle est vraiment magnifique. Alors moi, je voudrais rebondir aussi un peu sur tout ça. Donc, vous avez commencé en quelle année à écrire justement votre premier volume ?
J'ai commencé en 2000. J'ai écrit de août 2010 à juillet 2012. Et après, mon histoire était complète. Par contre, j'ai trouvé un éditeur qui avait accepté de m'éditer en 2013, mais il n'a pas poursuivi. Enfin, on avait signé, tout, mais ça n'a pas marché. Mais il m'avait demandé de rattacher mon monde. Il me disait, ce monde est parfait socialement, on comprend bien, mais il manque son rattachement à son fond politique. Et donc, il m'avait demandé d'introduire dans le texte des informations que je lui avais dites oralement, parce que pour moi, c'était très clair, mais je voulais pas alourdir. Et du coup, j'ai passé tout un été dans les dialogues à rajouter des informations sur l'organisation du monde d'Anna O'Neill d'un point de vue politique. Et du coup, mes tomes 1 et 2 de mes dernières éditions, de mes deux dernières éditions, donc celle-ci qui est la vraie édition et puis celle que j'avais fait à ma dernière auto-édition, ont plus de pages parce qu'il y avait plus d'informations. Et donc maintenant, j'encourage beaucoup mes lecteurs à lire le tome 2 sous sa dernière version parce que c'est dommage de rater des informations. Et ça correspond à peu près à une dizaine de pages de plus. Enfin, elles sont pas dans un seul morceau, mais ça rajoute une dizaine de pages dans les livres.
Alors moi, je voudrais lire un petit peu des avis qui ont été postés par les lecteurs donc sur votre page Facebook qui s'intitule Le Monde d'Anna O'Neill. Donc c'est Jackie qui dit: j'ai tout de suite été emballée. Je suis purement éberluée par l'étendue et la précision de votre imaginaire. Quant à la qualité de l'écriture, bravo, c'est fluide, agréable à lire, fort bien écrit. Merci pour ces moments de bonheur que vous avez commencé à me procurer. C'est un pur délice. Deuxième avis, je viens de terminer le tome 1 de Élodie. Donc le tome 1 du monde d'Anna O'Neill, et comment dire, c'était super. Très bien écrit, fluide, prenant, étonnant, drôle, angoissant. Bref, un premier volume ultra prometteur. Je vous le conseille, foncez. Camille. Donc, il continue Camille qui dit: je suis fan de votre univers, la lecture est fluide et agréable. Je me suis laissée porter par l'histoire et me suis attachée au personnage, surtout celui d'Oriane. J'attends vraiment avec impatience l'arrivée des prochains tomes. Alors, ce que je relis, par exemple, dans les trois avis, c'est toujours ce mot fluide. Donc, cette fluidité, ça, c'est très important, je pense, pour le lecteur, qui est quelque chose de fluide.
Je suis très fière d'avoir parmi mes lecteurs ce que j'appellerais des petits lecteurs, c'est-à-dire des gens qui m'ont acheté le livre parce qu'ils me connaissaient, et qui m'ont dit: jamais je lirai 5 livres. Et qui ont lu 5 livres en me disant: c'est extraordinaire, je ne m'en croyais pas capable. Et ça, c'est quelque chose qui est une grande fierté, parce que donner envie de lire, donner envie de s'accrocher, et mes lecteurs me disent: on ne se perd jamais, on sait toujours où on est. Et moi, j'ai voulu vraiment cette simplicité. J'ai travaillé le texte, c'est vraiment du travail, j'ai travaillé le texte pour qu'il soit extrêmement fluide, qu'il coule dans l'esprit du lecteur comme de l'eau, et que rien n'accroche, et qu'à aucun moment on se demande mais qui parle, où on est, et que l'histoire, on ouvre les yeux et l'histoire rentre dans la tête. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu, et je suis très heureuse quand on me le fait remarquer.
Alors, quel âge à peu près ont vos lecteurs ? Ça commence à partir de quel âge ?
Alors, j'ai un bon recul de lecteurs, puisque j'ai plus de 500 lecteurs maintenant. Et j'ai des retours enthousiastes de 12 à 86 ans, avec un petit bémol, parce que 12, j'ai même un lecteur de 10 ans, mais j'ai pas encore eu de retour de sa part. Mais bon, ce sont des bons lecteurs. Hein. Et puis, 86 ans, j'ai une personne qui m'a acheté mon livre qui en a 90, donc j'attends son retour aussi, parce que je pourrais étendre mon... Je crois que c'est pas une question d'âge. Beaucoup de lecteurs me disent... Il y a le niveau de lecture de l'aventure où il se passe tout le temps quelque chose et c'est incroyable. Enfin, Dieu sait que je leur en fais vivre, c'est terrible. Et puis, entre les lignes, le fait d'avoir ce personnage qui arrive d'un ailleurs tellement différent, cet autre monde où, qui est un monde qui se tient, mais qui n'a strictement, c'est même pas une autre culture, ça n'a strictement rien à voir avec notre monde à nous. Et ben, beaucoup de lecteurs me disent, quand on regarde, quand on lit les livres et qu'on regarde notre monde autour de nous, et ben, tout ce qui est évident, c'est pas si évident que ça. Des choses aussi évidentes que d'être parent, d'avoir des frères et sœurs, de faire partie d'une famille, d'être amoureux, de vivre en couple, de tout ça, ben tout ça, c'est évident parce que on est organisé comme ça, mais ça pourrait tout à fait être organisé de façon très différente. Et du coup, beaucoup de lecteurs me disent, c'est un livre qui nourrit. Voilà, c'est un livre qui fait grandir à tout âge parce que c'est un livre qui accompagne une réflexion. Moi, je donne pas de réponse, je ne pose jamais de questions, mais simplement, à travers les lignes, on découvre, on trouve tout ça soi-même.
Vos lectures, est-ce que quand vous étiez, bon, je sais pas à partir de quel âge, vous lisiez ce genre de lecture? Est-ce que vous avez, à un moment donné, lu ce genre de lecture? Alors, si oui, qu'est-ce que vous en pensiez?
Alors, à mon époque, les livres que j'ai vraiment lu avec beaucoup, beaucoup de bonheur dans ces âges-là, l'âge de collège, c'était les livres de la collection Signes de Piste. Je sais pas si vous vous souvenez de cette collection. C'était des livres qui se passaient beaucoup dans le milieu du scoutisme, mais aussi où il y avait des aventures. Et j'ai beaucoup aimé ces livres-là. J'ai beaucoup réécrit des fins de ces livres-là, parce que même plus jeune, j'écrivais. Je lisais beaucoup, mais les sagas, comme on les conçoit maintenant, n'existaient pas. Il n'y avait pas ce... En fait, on dit littérature jeunesse et littérature adulte, ce qui est très dommage de faire cette différence, parce qu'il y a au milieu des choses qui plaisent à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé lire Harry Potter, par exemple. Harry Potter, les films ne m'ont pas plu, parce que ce qui m'intéresse dans Harry Potter, c'est justement ce héros qui grandit, c'est cette conscience, cette prise de conscience de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que le monde, de ce que c'est du fait qu'on fait pas toujours ce qu'on veut et qu'on se retrouve pas toujours là où on a envie d'être et que il faut composer avec tout ça et qu'on en est tous là, que la vie c'est compliqué. Et donc j'aime, et souvent dans les ce qu'on appelle la littérature jeunesse, c'est très manichéen. Donc les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, on sait pas très bien pourquoi. Et puis après il y a la littérature adulte. Alors là il y a de tout et c'est compliqué, mais entre les deux, il y a des littératures qui intéressent tout le monde. On peut m'emmener dans n'importe quel monde, dans n'importe quel univers, du moment que les relations humaines sont vraies, riches et profondes. Moi, on peut m'emmener partout. Il faut que j'y croie, c'est tout. C'est de la lecture qui emporte tout le monde. J'ai des retours vraiment enthousiastes de hommes, femmes, plus jeunes, plus âgés. Et en plus, j'ai quelques lecteurs qui m'ont fait des lectures en me disant ce qu'ils avaient trouvé dans le texte et des choses que je n'ai absolument pas conscience d'y avoir mis, ou bien que eux ont trouvé parce que ça a nourri quelque chose qui a fait des échos chez eux. Mais je suis très étonnée comme un texte peut comme ça réveiller des choses chez les lecteurs que l'auteur n'a pas conscience d'avoir mis dans son texte.
Vieux banc au bord de la mer, je m'assois pour regarder devant, pour sentir, pour me taire, écouter les secrets du vent. C'est alors qu'elle s'est avancée, elle s'est assise à côté de moi, d'un air sûr elle s'est présentée. Je suis ta part d'ombre, souviens-toi. Oh, ce soir-là, au bout du mystère, côté pied, côté face, ma part de paix et ma part en guerre se sont regardées en face. Trop longtemps en douleur, l'une contre l'autre, elles ont régné. Trop d'excès, ma part d'ombre était revenue. Est-ce qu'elle était là pour négocier? Moi, longtemps, j'avais cru qu'elle finirait par se lasser. Cette part blessée dorénavant, je la prends dans mes bras en douceur. Je n'entends plus le bruit j'entends battre mon cœur. Oh, ce soir-là, au bout du mystère, côté pile, côté face, ma part de paix et ma part en guerre se sont regardées en face. Trop longtemps en douleur, l'une contre l'autre, elles ont régné. Trop d'excès, trop de pleurs. Et si ce soir elles s'accordaient, moi je suis le jour comme la nuit. Je sens ce besoin d'équilibre, la chaleur et la pluie, le silence et le bruit. Entre ombre et lumière, je me sens vivre. C'est alors qu'elle s'est avancée pour s'asseoir à côté, juste là. C'est moi qui lui ai parlé. Je suis ta part de lumière, suis-moi.
Et est-ce que donc aujourd'hui vous avez le temps de lire ?
Alors je lis pas tellement, non. Je lis pas tellement. Par contre, j'écoute beaucoup des livres lus. Ça j'aime beaucoup. Je fais ça en voiture parce que je fais beaucoup de trajets pour les dédicaces. Et donc j'aime énormément écouter des livres. C'est comme si quelqu'un était assis à côté de moi et me lisait le texte. Alors j'aime les livres lus quand ils sont pas scénarisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruitage, il y a pas. C'est quelqu'un qui lit le livre. Point. Et là dernièrement j'ai choisi de lire Proust, que j'ai jamais réussi à lire en livre parce que je me perds dans les phrases, je me perds dans les pages, les phrases sont tellement longues. Et là, c'est donc, dans ma version, c'est Ducellier qui le lit, et il le lit avec une telle qualité de lecture que je me perds jamais. J'ai l'impression qu'il est assis dans ma voiture et qu'il me lit Proust, et je prends un immense plaisir à l'écouter.
Comme quoi le livre audio aussi a ses bienfaits. Donc votre premier livre ou un livre qui vous a marqué durant votre... quand vous avez commencé à lire, à découvrir le livre.
Alors je devais avoir 12 ans, je pense, et j'ai lu un livre qui s'appelait... Alors le troisième tome s'appelait Le Prince Eric, c'était dans la collection Signes de Piste. C'était une aventure extraordinaire. Je saurais même plus dire ce qu'il y avait dedans, mais je me souviens l'avoir relu plus grande, donc vers l'âge de 15 ans ou quelque chose comme, ou 17 ans, et m'être demandé ce que j'y avais trouvé, parce que, et en même temps, c'est vraiment un livre qui m'a emporté et qui me, enfin, je trouvais extraordinaire qu'on puisse écrire comme ça. Et alors, adulte, le livre qui m'a énormément plu et que je distribue à tout le monde tout le temps, c'est J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, de Anna Gavalda. Ce livre, il m'a, c'est des personnages, c'est des nouvelles, et c'est des personnages qui sont, j'y pense souvent, j'y pense souvent, voilà, c'est des personnages qui m'accompagnent. Et j'aime que dans ma vie de tous les jours, des choses me rappellent des choses que j'ai lues. Et d'un coup, je réagis en fonction des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai l'impression d'avoir rencontrées dans ces livres.
D'autres projets d'écriture, Cécile ?
Alors, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. Quand j'ai fini mon cinquième tome, j'ai continué à écrire. Parce que il y a une forte, forte demande à retourner dans ce monde de mes lecteurs. Alors, c'est quand le sixième? Si je réécrivais un sixième tome, ce serait pas un sixième tome, ce serait une nouvelle aventure dans le même monde, mais avec encore beaucoup de tomes, parce que je reposerais une autre problématique et j'irai jusqu'au bout. J'ai laissé plein de ficelles que je peux tirer et plein de possibilités, comme dans les grandes sagas avec des saisons à tiroir. J'ai écrit, donc comme j'arrivais pas à m'arrêter, j'ai écrit déjà 12 chapitres d'une suite en reprenant 4 ans plus tard. Depuis un an, je n'ai rien écrit du tout parce que l'édition est quelque chose qui vous emporte et qui rend très compliqué de se... On peut pas tout faire. L'écriture est quelque chose, ça nécessite une disponibilité, enfin on est pris pris, c'est comme une transe, donc on peut rien faire d'autre. Et là, ben, j'ai plein d'autres choses à faire et je dois dire que ma famille est contente de m'avoir retrouvée. Donc ça me fait un peu peur de repartir à la fin. Moi, quand j'écrivais, j'avais plus faim, j'avais plus sommeil, plus besoin de voir personne. Ça m'a même fait peur. Et puis depuis, quand je discute avec des gens autour de moi, je m'aperçois que beaucoup de gens qui écrivent vivent ça, une espèce de quelque chose qui vous emporte plus loin que sa propre vie et qui il y a une certaine, pourtant j'avais bien conscience de pas écrire le livre du siècle, mais quelque chose qui est plus important, qui est urgent. Voilà, il y a une urgence à avancer, à continuer d'avancer.
Parce que ce projet d'écriture vous habite complètement et vous êtes immergé par cette histoire qui est là et qui a besoin de se dire.
Mes héros m'appelaient tous les jours, ils me disaient « Alors, quand est-ce que tu reviens t'occuper de nous ? Quand est-ce que tu vas nous sortir de là ?» Et les fois où j'étais bloquée, parce que j'ai passé mon temps à mettre mes héros dans des situations pas possibles, sans du tout savoir comment j'allais les en sortir, donc il fallait que je trouve des solutions, et ça m'a... Des fois, j'ai été bloquée, des fois une semaine, ou j'écrivais à peu près en moyenne, j'écrivais un chapitre par semaine, et je les envoyais à, j'ai eu trois, au début, j'ai eu qu'une lectrice qui m'a suivi tout le temps, donc c'était Oriane la vraie Oriane, qui m'a encouragée, c'est pour elle que j'écrivais, voilà, c'était une jeune fille de l'âge de mon fils, avec qui je faisais de la musique et que j'avais choisi pour mettre dans mon livre parce que j'avais besoin d'une fille et que pour pas faire des fiches de personnages, j'ai pris des gens que je côtoyais, comme ça je savais comment ils étaient physiquement. Et cette jeune fille m'a encouragée, enfin chaque fin de chapitre, elle me disait non mais encore, et des fois j'étais bloquée pendant une bonne semaine. J'avais cette pression de mes trois lecteurs hebdomadaires qui me disaient alors et alors et alors. Et puis d'un coup, je débloquais la situation parce que je trouvais enfin l'idée pour que tout se tienne, que tout soit crédible, que n'importe quelle situation, ça soit pas des choses qui apparaissent comme ça. Il fallait que je tienne compte de tout ce que j'avais mis dans les autres chapitres et donc que je trouve des raisons qui se tiennent. Et quand je trouvais la solution, c'était une immense joie. Vraiment, c'est un bonheur d'écrire. C'est vraiment un bonheur d'écrire. C'est quelque chose qui vous emporte et qui, ça met de la vie dans la vie. C'est vraiment. Et puis alors après, toutes ces rencontres qu'on fait, même en auto-édition, hein, tous ces gens que j'ai rencontrés, avec qui j'échange encore, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir la chance de pouvoir vivre tout ça.
Est-ce que, Cécile, vous avez eu des moments de doute ou des moments difficiles dans votre travail d'écriture? Là, vous venez déjà un petit peu de nous dire quelques bribes, mais plus précisément.
J'ai pas su que je terminerais avant de terminer. J'avançais. Beaucoup de gens me disaient, ça finit quand? On s'en finit plus. Et je disais, ça finira quand ça finira. C'est pas moi qui décide. J'ai été très amusée par le fait que j'avais souvent entendu des auteurs dire que les héros faisaient, que les personnages faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Je trouvais que c'était un peu, ça me faisait rire et je me disais que c'était farfelu. Mais en fait, pas du tout. Quand on vit avec des personnages, ils ont chacun leur profondeur psychologique, des choses qui les font agir, des choses, ils réagissent en fonction de choses précises, des choses qu'on a placées soi-même, leur caractère, et des fois, justement, ils font pas ce qu'on veut parce qu'on aimerait bien les amener là et puis ils ont pas du tout envie d'y aller. Et je me souviens avoir beaucoup de fois passé un dimanche entier avec mon frère à décider de plein de suites possibles, et puis on en choisissait une, on était tout content, et puis 2 jours plus tard je lui ai envoyé un mail en lui disant ils se sont fâchés, ils sont plus au même endroit, donc c'est ce qu'on a dit, c'est pas possible. Alors mon frère me dit fais en sorte que, et je lui dis je suis désolé, là c'est, faut qu'on trouve autre chose parce que et puis comme c'est moi qui écris, c'est moi qui décide, voilà. Et j'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments de doute sur le fait que j'arrive à aller à la rencontre de mes lecteurs. C'était ça, ça a été très difficile pour moi. J'avais très envie que ce livre soit lu par beaucoup de gens et j'ai pris beaucoup d'assurance parce que j'ai beaucoup de retours extrêmement positifs. Mais au départ, je disais pas que j'écrivais, je disais à peine que j'avais écrit une histoire. Maintenant, je dis, j'ai écrit une saga. C'est une saga qui a énormément de potentiel. C'est une saga qui est extrêmement addictive et qui plaît énormément. Je peux le dire parce que j'ai tous ces gens derrière moi qui m'ont porté. Mais j'ai pas pu le dire. Enfin, j'ai eu 2 années où je me suis vraiment battu contre moi-même pour essayer de dire, mais ce que t'as fait, c'est vraiment bien.
pour vous joindre, Cécile, donc vous avez une adresse, une page Facebook?
Alors j'ai ma page Facebook, Cécile Coppel-Vergne, K-O-P-E-L, Vergne, V-E-R-G-N-E, Cécile Coppel-Vergne. Et puis j'ai une page exprès pour mon livre qui s'appelle Le Monde d'Anna O'Neill, qui est une page sur laquelle je donne toutes les informations qui sont nécessaires pour me retrouver dans les dédicaces et puis des réflexions sur ce que je vis. Je tiens par ailleurs un bulletin de mes pérégrinations éditoriales que j'envoie à ceux qui m'ont donné leur mail et ceux qui veulent bien. Des fois, je mets un peu les gens de façon automatique sur mon bulletin, mais s'ils souhaitent pas le recevoir, ils me le disent simplement et je les enlève de mon listing. Voilà. Et là, par contre, je donne des informations plus en Facebook, c'est la vie rêvée, hein, c'est ce qu'on met en vitrine. Et puis tout ce qu'on a mis sous le tapis en sculptant sa vie rêvée, ben voilà, c'est de la matière dont j'aime partager ça aussi avec mes lecteurs, mais bon, ceux qui veulent. Parce qu'en général, c'est long. c'est des réflexions sur ce que c'est que la vie d'écrivain. Voilà.
Un petit mot de la fin pour vos lecteurs.
Eh bien, écoutez, si vous vous lancez dans cette aventure, pensez à me faire un retour. J'ai énormément de plaisir à parler de cette saga avec ceux qui l'ont lu. J'ai même l'impression que ces gens-là font un peu partie de ma famille, puisqu'ils rentrent dans l'histoire d'O'Neill, et que O'Neill, c'est un personnage qui fait partie de ma vie de façon très très forte.
Merci Cécile Coppel.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Place à la musique maintenant avec un titre, L'ombre et la lumière, une chanson écrite par Calogero qui l'interprète en duo avec Grand Corps Malade.
Été 1868, quelque part dans le Grand Ouest, il a sauté sur son cheval pour disparaître en un geste. La porte du saloon claque encore, dehors le vent fouette la poussière. Lui, il galope vers son sort sans jamais regarder derrière. Est-ce qu'il cherche ou est-ce qu'il fuit? Est-il sûr ou incertain? Est-ce qu'il tente de rattraper ou d'échapper à son destin? À quoi ressemble son avenir, une évidence ou un mystère? Il se fabrique un empire, il est fait d'ombre ou de lumière.
De l'ombre, de la lumière, lequel des deux nous éclaire? On marche vers le soleil dans les couleurs de l'hiver. De l'ombre, de la
en 2008, quelque part à Paris, j'ai démarré la voiture pour échapper à ce temps pourri. La porte du café tremble encore, dehors la pluie fouette le bitume. À chacun sa ruée vers l'or, j'accélère à travers la brume. Puisque mon temps est limité, mes choix doivent être à la hauteur. C'est une course contre la montre ou une course contre la peur. C'est toujours la même chevauchée, on vise la lueur droit devant. Même si cette quête est insensée, je cours pour me sentir vivant. On court à travers les siècles, mais c'est toujours la même chevauchée.
As-tu peur que la route s'achève?
Mais cette course est insensée.
As-tu mis un nom sur toutes les lèvres?
Les lèvres.
Les lèvres.
temps, petites annonces. Donc le mercredi 22 juin, un événement dans le cadre du festival Culturissimo 2016, l'espace culturel de Carpentras vous invite à la lecture de Marianne Denicourt dans la cour de la Charité à Carpentras. Donc venez retirer vos invitations à l'accueil donc du magasin. Samedi 25 juin de 11h à 18h30. Claudie Augier sera en séance de dédicace pour présenter son livre jeunesse, Praline et Hector. Donc, nous sommes toujours à l'espace culturel de Carpentras. Au mois de juillet, toujours, le festival Plein les Mirettes, du 4 au 30 juillet. Lecture estivale en musique, tous les mardis à 16h dans l'espace culturel de Carpentras. Samedi 2 juillet, de 10h à 12h et de 16h à 19h, Robert Millet sera en séance de dédicace pour son livre « Mes aventures en Provence ». Frédéric Barrès sera là le samedi 9 juillet, de 10h à 18h. Il revient en séance de dédicace pour son roman policier, « La deuxième vie des méduses ». Le samedi 16 juillet, de 10h à 18h, Marie-Lé Sigaud sera en séance de dédicace pour son roman « L'association secrète, tome 1, origine ». Du 20 au 31 juillet, la grande fête du livre pour la jeunesse revient du 20 au 31 juillet, donc partout en France. Cette année, elle sera présente au lac de Monteux. Donc, apportez des livres et n'oubliez pas votre maillot de bain. Samedi 23 juillet, de 10h à 18h, C.P. Brace sera en séance de dédicace pour son roman policier Effet Domino. Nous allons continuer cette émission avec une auteure, Karine Vitelli. Elle en est donc à son deuxième livre et n'a pas l'intention de s'arrêter là. Karine Vitelli, née en 1983, vit dans le sud aixois. La lecture est sa passion, sa bulle, son univers. Puis petit à petit, son imaginaire a explosé, lui donnant des fourmis dans les doigts, des histoires sont nées. Qu'importe le genre, du contemporain au fantastique, la trame reste la romance. Karine Vitelli. Karine Vitelli, bonjour.
Bonjour.
Alors Karine, vous êtes là aujourd'hui pour présenter votre deuxième livre, Eren, donc chez Sudarène Édition. Sa sortie donc nationale, c'est le 25 juin 2016. Donc Eren, le genre de cet ouvrage, c'est de la science-fiction, c'est... Dites-nous.
Alors cet ouvrage, c'est du fantastique, avec un fond de romance, mais le fantastique prédomine cette histoire. C'est un premier tome, mais qui a aussi beaucoup d'action sur le domaine du fantastique.
Alors vous avez changé de genre parce que votre premier livre qui est sorti en novembre 2015, Mais pas de velours, qui est une romance contemporaine, donc j'ai oublié de parler de l'éditeur, les éditions Alexandra de Saint-Prix, le genre est différent.
Alors tout d'abord, Mais pas de velours, qui est mon premier roman, est une romance contemporaine. Pourquoi ? Parce que je lisais beaucoup, je lis toujours des romances, donc j'ai eu envie d'écrire une romance. Mais je lis aussi beaucoup de fantastique, avec toujours de la romance, et je me suis dit pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi je pourrais pas pareil ? Donc je me suis lancée aussi dans ce fantastique. Voilà comment ça est venu, c'est par rapport à des idées, par rapport à des histoires que j'ai lues, et j'ai voulu tenter le fantastique, voilà.
Quel a été ce premier livre qui vous a marqué ?
Alors déjà, la lecture m'est venue très très tard. Avant, je ne lisais pas beaucoup. Après, j'ai vu une émission à la télévision d'un livre autobiographique qui s'appelle « Survivre avec les loups » de Misha Defonseca. Désolée si je le prononce mal, mais c'était qui m'a donné le goût de la lecture. Et depuis, ben, je lis beaucoup. Alors, j'ai fait une pause avec ce livre et d'autres. Et après, bon, je pense comme beaucoup de personnes, le best-seller de 51 degrés m'a replongé dans cette lecture. Et depuis, ben, je lis plus de 2 livres par semaine. Et s'ils sont très addictifs avec une écriture fluide, ça peut m'arriver jusqu'à 3. Mais sinon, 2, c'est une moyenne qui me suffit pour l'instant.
Donc cet auteur vous a vraiment fait passer ce cap. Vous aviez quel âge quand vous avez découvert ce livre ?
Oh, je dirais, c'est que ça remonte, hein, mais je dirais ouais, entre 20, 21 ans, 22, ouais, petite vingtaine d'années.
Donc Karine Vitelli, vous avez donc vous venez du sud aixois, vous êtes née en 1983. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ?
Je suis dans une famille, une grande famille, on va dire, qui m'a toujours épaulée, toujours encouragée, parce que je manquais beaucoup de confiance en moi, mais ils ont toujours été là. Mes parents, mes sœurs, parce qu'on est une famille avec mes 2 sœurs, hein, je suis l'aînée. Voilà, dans un petit village, j'ai grandi. J'ai une belle famille aujourd'hui. J'ai 2 petits-enfants de 5 ans et 9 ans, qui me demandent beaucoup d'attention, mais qui me donnent la force de continuer d'écrire, parce qu'ils sont tous derrière moi. Même ce livre, Irène, eh ben, j'ai dédicacé à ma fille, hein, qui m'a beaucoup inspirée, par son tempérament, par sa couleur de cheveux, qui a la même couverture que elle. Hein. Donc, voilà, nous sommes très soudés. Voilà, par rapport à moi, je suis quelqu'un qui est active, qui aime beaucoup bouger. Je n'aime pas rester en place. J'ai toujours le cerveau en ébullition. Je vais même des fois trop vite pour mon entourage, on va dire. Mais voilà, je me vois comme quelqu'un de dynamique. Peut-être trop pour certains, mais moi je me conviens, j'assume totalement.
Donc d'où peut-être vous arrivez dans votre vie, entre votre vie professionnelle, votre vie familiale, vous arrivez à trouver ce temps d'écriture. Alors dites-nous un petit peu, comment est-ce que vous faites ?
Ben, quand on veut, on peut. Il faut juste s'encourager, de ne pas laisser de côté sa passion. Effectivement, je travaille entre 8h et 18h tous les jours. J'ai la chance, on va dire, d'avoir 2 heures de pause entre midi et 2. Donc après avoir vite mangé mon petit casse-croûte du midi, ben, je me mets devant mon ordinateur, hein, je m'enferme dans ma bulle littéraire, on va dire. Et là, voilà, je voyage totalement, je suis déconnectée de la vie. Pendant une heure et demie, j'écris. Et le week-end est réservé à ma famille, forcément. Bon, sinon, c'est en semaine. Du lundi au vendredi, j'arrête pas d'écrire. Entre midi et deux.
Voilà, vous avez trouvé votre créneau d'écriture entre midi et deux. Donc, ce dernier livre, Eren, qui va sortir le 25 juin 2016, qui est un fantastique, donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce livre ?
Oui, bien sûr. Alors, je vais pas trop en révéler non plus parce que c'est délicat. Mais on peut dire que, bon, déjà, mon livre se parle à la première personne. On est dans la personnage de l'héroïne, ça c'est très important parce que souvent on parle à la troisième personne, donc on est dans mon héroïne s'appelle Eren, c'est une jeune dame qui est infirmière, tout se passe très bien, elle vit sur Aix, un beau matin le 21 décembre, qui ne date pas anodine du tout, elle a 25 ans, jour où elle aperçoit qu'en fait elle n'est pas humaine, elle est devenue une mutante. Alors pourquoi, comment, ça il faudra lire le livre. Ce que je peux dire, c'est que le jour de ses 25 ans, elle se fait enlever par un clan, qui elle va être transportée dans la station de Montclair à Seine-et-les-Alpes, qui est une station d'ici, de chez nous. Hein. On va lui expliquer pourquoi cette jeune fille est devenue une mutante et à quoi elle pourrait servir. Et elle va apprendre, ça je peux le dire, c'est dans le résumé, elle va apprendre qu'elle est face à un dilemme, ou à la possibilité de revenir à sa vie d'avant, infirmière, ou à la possibilité de sauver le monde. Quand même deux choix importants à faire. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ben ça, il faut lire le livre.
Vous nous avez mis l'eau à la bouche. On a envie d'en savoir plus. Karine, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Alors là, vous avez écrit déjà 2 livres. Est-ce que vous êtes en train d'en écrire un 3e ?
Effectivement, je suis en train de finir le 3e. Je pense que d'ici une bonne semaine, ça sera fini. C'est la suite de mon premier roman, Mes pas de velours, qui est encore une romance contemporaine, où j'ai choisi de récupérer 2 personnages dans ce premier volet, que j'ai fait autour d'une jolie histoire, une jolie romance avec beaucoup d'action aussi. Et dès que ça sera fini, je vais me replonger dans l'écriture de Eren pour son 2e tome.
Un lien pour vous contacter, Karine. Je sais que vous avez un site. Est-ce que vous avez une page Facebook ?
Oui, exactement. Donc j'ai un site internet, mais j'ai aussi une page Facebook. J'ai un compte Twitter et Instagram. Donc on peut me contacter, sur les réseaux sociaux ou directement par ma page internet où j'ai un contact. Je suis très joignable et surtout très à l'écoute de mes lecteurs. J'aime bien partager avec eux, échanger, recevoir des avis positifs mais aussi négatifs. Ça me permet aussi d'évoluer. Je suis très proche de mes lecteurs et au contraire, venez me voir, il n'y a vraiment pas de souci, discutons.
Le site, par exemple, c'est www.karinevitelli.com. Merci Karine.
Merci à vous.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Avant de laisser la parole à Victor pour le moment de l'imaginaire, j'ai choisi de vous faire écouter un second extrait d'une composition musicale de la collection de l'imaginaire du plomb à la lumière, aux éditions Le Grimoire. Le compositeur Baptiste Lefort, le titre de la nouvelle Ce qui nous lie, l'auteur Ophélie Hervé. Je voudrais rajouter que vous pouvez retrouver ces auteurs sur le site www.legrimoire.net. Place à la musique donc avec Baptiste Lefort et tout de suite après le moment de l'imaginaire avec Victor.
Bonjour et bienvenue dans Le Moment de l'Imaginaire. Alors, ce mois-ci, nous allons rencontrer Alain Damasio, qui est un auteur donc de science-fiction, principalement. Il est né en 1969 à Lyon. Au début, il fait des études scientifiques, et après, il part vers la philosophie. Et ça se sent. Parce que Alain Damasio, il est intéressé par plein de problématiques sociales. Il se pose des questions. Il se demande qu'est-ce que la société, qu'est-ce que l'individu dans la société, comment la société, eh bien, elle malaxe l'individu pour le modifier, pour le créer, et comment l'individu, eh bien, il crée la société. Il a écrit des livres passionnants. Il a écrit. Alors, il est connu pour deux livres principalement, La Zone du Dehors, hein, qui a été édité pour la première fois en 1997, et La Horde du Contrevent, qui est plus tardif, hein, qui paraît en 2000, dans les années 2000, qui reçoit le Grand Prix de l'Imaginaire, hein, un prix très important, en 2006. Aujourd'hui, on peut trouver les deux œuvres en folio SF. Donc, si vous voulez, vous les procurez. Et également, édité chez la maison d'édition de cet auteur, qui est devenu également éditeur avec une maison d'édition qui s'appelle La Volte. Mais revenons à l'œuvre de cet écrivain. Il est connu pour La Horde du Contrevent, dont je vais vous donner un petit résumé avant de passer à La Zone du Dehors. Alors, La Horde du Contrevent, c'est un monde mystérieux, hein, qui est un peu fantasy. On est dans un monde où le vent souffle perpétuellement. On a un vent vraiment très puissant qui souffle tout le temps dans le même sens. Et donc les habitants ne savent pas ce qu'il y a en amont. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans la direction d'où vient le vent, puisqu'ils ne peuvent pas y aller pour la plupart. Parce que c'est difficile de remonter le vent. C'est pourquoi ils ont créé quelque chose, ils ont créé les hordes. Et les hordes, c'est des groupes d'individus qui sont formés expressément pour remonter le courant du vent et aller explorer les territoires qui se trouvent en amont. Et leur but ultime, bien sûr, c'est de savoir d'où vient le vent. La Horde du Contrevent nous raconte l'histoire d'un groupe qui remonte le vent et qui découvre villages, contrées, montagnes et autres. Je ne vais pas dévoiler leurs aventures, mais des mondes incroyables. La Zone du Dehors, c'est la dystopie de notre société. On ne peut plus dénoncer le totalitarisme. Aujourd'hui, en Europe, on a presque plus de dictature. Par contre, nos sociétés démocratiques ont des défauts. Et donc, La Zone du Dehors dénonce les défauts de nos sociétés. Par exemple, l'importance du sondage. Aujourd'hui, avant des élections, on a des sondages qui nous prédisent l'issue des élections. On nous dit, en fait, ce que pense la majorité et donc ce qu'il vaut mieux penser. Dans le monde de La Zone du Dehors, les dirigeants sont en fait désignés par les sondages. Et dès qu'ils n'ont plus de cote de popularité suffisante, ils sont démis. Donc en fait, il n'y a aucun dirigeant qui peut faire des politiques à long terme. Ils sont tous soumis à ce diktat du consensus. Et en fait, la société de La Zone du Dehors, elle repose comme ça sur des principes qui a priori sont démocratiques, c'est-à-dire le choix de tous, mais qui sont pervertis pour aller vers autre chose. Une sorte de démocratie qui n'en est plus une. Par exemple, le système, c'est que tout le monde a un nom qui est composé d'une ou cinq lettres. Et c'est la société qui décide comment va s'appeler la personne. Les personnes les plus importantes ont une lettre dans leur nom. Et ceux qui, donc par exemple A, c'est le dirigeant de la société, A, B, C, D, tout ça c'est des ministres, et la personne la moins importante dans la société c'est Z, 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 donc lui, il a pas de chance. Comment ça se décide tout ça? En fait c'est un espèce de gigantesque vote. Tous les ans, toutes les personnes vont voter en notant les personnes qui sont autour d'eux. Par exemple, le père vote le fils note le père, le professeur d'université note l'élève, l'élève note le professeur d'université, le voisin note le voisin, le spectateur note le présentateur télévision, et vous pouvez même noter les gens que vous croisez dans la rue. Donc tout ça vous donne une note, et après la société classe les individus et attribue des noms en fonction de votre place dans la société. En gros, si vous êtes nul, vous avez beaucoup de lettres, et vous avez plus de lettres de la fin de l'alphabet. Si vous êtes bon, eh ben, en tout cas selon la norme, eh bien, vous avez moins de lettres et c'est plus proche du début de l'alphabet. Alors le héros, il s'appelle Capt. C'est un professeur d'université et il est un peu spécial parce que lui, il résiste dans cette société. Par exemple, il refuse qu'on change son nom. Il fait exprès, même s'il a des bonnes notes, de garder le nom Capt, 4 lettres, alors qu'il pourrait avoir un nom bien meilleur. Il résiste aussi alors de deux façons. Il résiste par l'action. Par exemple, il va dans la zone du dehors. Hein, c'est le nom du livre. La zone du dehors, c'est une zone en dehors de la ville qui n'est pas interdite, mais il est déconseillé d'y aller. La différence est subtile. Et oui, parce que l'interdiction, c'est la société totalitaire qui interdit. Là, on est dans une société qui est pas totalitaire. Hein. Par contre, si vous y allez, comme c'est déconseillé, vous êtes vu comme un marginal. On vous considère comme quelqu'un de bizarre. Vous êtes déjà, en fait, conditionné par votre environnement qui vous colle une étiquette. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'aller dans la zone du dehors sans qu'on le sache, sans que les autorités le sachent. Et ça, c'est presque impossible, puisqu'il y a des caméras, il y a des surveillances, tout est surveillé, pour le bien de tout le monde, bien sûr. Mais en résulte, un contrôle social très fort. Ils résistent par l'action, et ils résistent également parce qu'il est professeur d'université. Et donc, du coup, eh bien, il explique à ses élèves pourquoi cette société, elle n'est pas humaine. Donc, je vais vous lire un petit extrait du livre. Je vais donc laisser la parole à Capt, le personnage principal du roman, qui est un professeur d'université et qui fait des cours dans lesquels il explique pourquoi la société dans laquelle il vit, n'est pas humaine. Voilà les mots de Capt. Que je ne sois pas un autre, que jamais il ne le devienne, voilà la stratégie de fond d'un gouvernement moderne. L'assignation à la personnalité, chacun sait qu'elle commence au sortir du ventre de notre mère avec l'acte de naissance, qu'elle découle du prénom et du nom, qu'elle s'inscrit dans le dossier psychologique, signe le livret scolaire, s'étire sur le parcours professionnel répertorié par le clastre, qui nous hiérarchise tous et qui nous attribue place, cases et rangs, et s'exhibe au bout sur la carte, qui a fini par ramasser, sur une simple puce à l'ancienne et presque rassurante, la dispersion des pièces d'identité, du permis de conduire, du carnet de santé, des cartes de séjour, du travail, d'allocation, de crédit, et jusqu'au dossier professionnel, jusqu'au casier judiciaire. Épinglé chacun à sa personnalité, à sa biographie archivée, à son identité claire et classée, que l'on prend soin de prélever tout au long de notre vie, sans violence, mais sans fléchir. Voilà qui permet de fixer les têtes, n'est-ce pas ? De les arrimer à elles-mêmes comme on visse le fou à sa folie. Une folie savante, de bulletin psychiatrique, avec ses notes et ses normes, ses seuils minima et maxima, ses moyennes et ses écarts à la moyenne. Tout ce qu'un appareil rodé de savoir peut produire pour ordonner le désordre. Confisquer le rapport à soi dans l'épaisseur d'un dossier jamais clos. Vous dire qui vous avez été, comment vous êtes et qui vous devrez être. Non pas mutiler, non pas opprimer ou réprimer l'individu, comme on le crie si naïvement. Le fabriquer, le produire de toutes pièces et pièce à pièce. Même pas ex nihilo, à partir de vous-même. De vos goûts, désirs et plaisirs, copie conforme, tout simplement. Se libérer, ne croyez surtout pas que c'est être soi-même. C'est s'inventer comme autre que soi. Autre matière, fluide, flamme, autre forme, métamorphose. Déchirez la gangue qui scande « vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ». Ne soyez rien, devenez sans cesse. L'intériorité est un piège, l'individu, une camisole. Soyez toujours, pour vous-même, votre dehors, le dehors de toute chose. Voilà, un discours édifiant de Capt à ses élèves, qui montre que la société, en tout cas sa société, est un moule qui détermine l'individu, qui essaie de l'immobiliser et de prendre le pouvoir sur son libre arbitre. Un avertissement sain qui rappelle à tout le monde que la liberté n'est pas un acquis, c'est une conquête de tous les instants. Eh bien, bonne semaine.
Cette émission donc se termine, cette émission autour du livre. Je vous retrouve au mois d'octobre. Donc, bonne fin de soirée sur RTVFM.